Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Et le Mozambique à la une ce matin. Le Mozambique où le président Daniel Chapo annonce un dialogue national avec une partie de l'opposition et de la société civile. Et où dans le même temps à Maputo, une manifestation de son principal opposant Venancio Mondlane a été violemment dispersée hier par les forces de l'ordre. Dans ce journal également, la RDC avec le congrès à Kinshasa du PPRD, le parti de l'ancien président congolais Joseph Kabila, parti qui entend bien relancer ses activités politiques. Reportage aux Comores, à Moroni, où ces derniers jours sont marqués par des difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité et par des prix qui s'envolent. Enfin, à Madagascar, ce sont pas moins de 110 organisations de la société civile qui réclament plus de transparence et de vraies indemnisations pour les communautés concernées par les travaux de l'autoroute entre Antananarivo et Tamatave. Les forces de l'ordre ont fait usage de balles réelles hier à Maputo, la capitale du Mozambique. D'après l'ONG Plataforma Decide, balles réelles et gaz lacrymogène pour disperser une manifestation de l'opposant Venancio Mondlane, rassemblement contre l'accord en vue d'un dialogue national signé le même jour par le président Daniel Chapo et certains représentants de la société civile et de l'opposition mozambicaine. Lisa Fabian.
9 signataires entouraient le président Daniel Chapo pour l'adoption de ce pacte politique très contesté. Le chef de l'État mozambicain l'a présenté comme une main tendue à tous les citoyens du pays.
Ce dialogue national inclusif est un espace dans lequel tous les Mozambicains ont leur place, y compris ceux qui se disent manifestants, qu'ils soient affiliés à un parti ou non. Nous appelons à créer et consolider un système politique pluraliste et démocratique.
L'opposant Venancio Mondlane était pourtant absent et il a rejeté cet accord. Celui-ci bénéficie en revanche du soutien de son ancien allié Albino Forquilla, le leader du parti Podemos.
Les intérêts de la patrie mozambicaine doivent être placés au-dessus des partis politiques. Nous devons tracer un chemin vers un Mozambique uni, prospère et développé. Il faut dépasser une fois pour toutes les crises récurrentes dans le pays. On ne peut pas normaliser les troubles à l'ordre public qui entravent la libre circulation des personnes.
Au même moment, une manifestation conduite par Venancio Mondlane a été brutalement dispersée par les tirs de la police. Les partisans de l'opposant ont dénoncé une embuscade contre lui.
Et l'ONG Plataforma Decide assure que 14 personnes ont été blessées à ce moment-là. Des sanctions individuelles sont bien en train d'être préparées. Voilà ce que confirme l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Des mesures individuelles destinées à sanctionner le soutien de Kigali aux rebelles du M23 dans l'Est congolais. Et pour les autorités de Kinshasa, la situation actuelle où le groupe armé occupe une bonne partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette situation est due aussi à l'ancien président Joseph Kabila. Son parti réagit, le PPRD, réuni ces derniers jours en bureau politique et dirigé de manière provisoire par Robin Minaku. Le PPRD dénonce du harcèlement politique et annonce par ailleurs qu'il va se réformer, nous explique Patient Ligodi.
La première décision annoncée concerne la création d'une cellule d'analyse et de prospective. Cet organe sera rattaché au bureau politique et au secrétariat permanent du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer toutes les hypothèses possibles concernant la marche du pays, a déclaré à RFI Robin Minaku, et ce sera selon lui une sorte de laboratoire d'idées. Cette cellule qualifiée de stratégique devra être mise en place d'ici à 10 jours avec la désignation de ses animateurs dans le même délai. D'autres nominations sont attendues, notamment pour 4 des 6 postes de secrétaire permanent adjoint actuellement vacants. Des changements sont également prévus au niveau provincial dans l'optique d'une réorganisation du parti en profondeur. Cette restructuration vise aussi les élections générales de 2028. Robin Minaku explique que le parti se considère comme étant dans la résistance face à ce qu'il qualifie des dictatures. Pour porter ces nouvel élan, la cellule de communication du parti sera aussi réorganisée et professionnalisée avec une présence renforcée à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Pendant ces temps, Joseph Kabila toujours absent du pays. Pourquoi et où est est-il ? Aubin Minaku répond. Il est à l'étranger pour son projet doctoral, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Avant son départ, il faisait face, dit-il, à un harcèlement politique. Un retour en RDC, oui, mais il faut des garanties de sécurité, martèle Aubin Minaku.
Patient Ligodi et la politique congolaise, on en parle aussi avec notre invité Afrique ce matin, l'opposant Jean-Marc Kabound, libéré il y a 2 semaines et visiblement toujours remonté contre le président Félix Tshisekedi. Avec Christophe Boisbouvier, il évoque ses propres ambitions présidentielles, mais aussi la possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Entretien à écouter sur RFI.fr. Un dialogue qui serait pacifique, c'est ce à quoi appellent les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni à propos du Soudan du Sud. Après plusieurs jours de combats près de la frontière avec l'Éthiopie, le gouvernement de Djouba reconnaît avoir perdu le contrôle de la ville de Nassir au profit d'un groupe armé appelé White Army et présenté comme proche du vice-président Riek Machar, qui est aussi un opposant au chef de l'État, Riek Machar, dont des proches sont arrêtés ces derniers jours. Ça a été le cas par exemple hier du ministre du pétrole. L'électricité, l'eau, l'essence, les prix, il y a beaucoup de choses qui posent problème en ce moment aux Comores et des problèmes qui sont accentués par les demandes particulières de ce mois de Ramadan. Le gouvernement comorien annonce avoir acheté une dizaine de groupes électrogènes et dit aussi fixer le prix de certains produits, mais pas de tous. Reportage à Moroni d'Abdallah Mzembaba.
À Moroni et dans plusieurs régions du pays, le quotidien des habitants est marqué par des coupures d'électricité et des pénuries d'eau. Malgré l'installation de nouveaux groupes électrogènes, le réseau peine encore à répondre aux besoins. Mahamoud Salim Hafi, secrétaire général adjoint du gouvernement.
C'est juste une question de patience et de temps, de paramétrage des groupes. Par rapport à l'eau, il y a des améliorations à faire. Et je suis convaincu que dans quelques temps, cette question d'eau sera résorbée. Nous avons aménagé certaines taxes. Le gouvernement a sorti un arrêté fixant les prix concertés entre le gouvernement et le secteur privé, côté gros et côté détaillant.
Des explications qui peinent à convaincre. À la Fédération comorienne des consommateurs, on réclame des actions immédiates pour une population en apnée et contrainte de faire face à plusieurs défis. Nasra Mohamedissa, présidente de la FCC.
Les annonces des mesures d'accompagnement, c'est bien beau pour ce mois béni, mais il faut des actions terrain pour faire appliquer les décisions. À ce jour, rien de concret. Un léger mieux pour l'électricité, les prix des denrées sont en perpétuelle hausse et l'eau, n'en parlons plus. Bref, une totale frustration pour le consommateur de plus en plus asphyxié.
À ces difficultés s'ajoute depuis un moment un autre problème, la qualité du carburant. De nombreux automobilistes signalent des pannes à répétition qu'ils attribuent à une essence dégradée. La Fédération comorienne des consommateurs et le syndicat des transporteurs tiendront aujourd'hui une conférence sur le sujet. Abdallah Mzembaba Moroni, RFI.
À Madagascar, elles sont désormais 110 organisations de la société civile regroupées pour demander la suspension des travaux de l'autoroute entre Antananarivo, la capitale, et Tamatave, le principal port de la grande île sur la côte est. Des ONG qui demandent de la transparence et une concertation avec les communautés qui sont expulsées sans ménagement et sans compensation, assure-t-elle. Sur place, Guillaume Fabry.
Une situation dramatique, c'est ce que vivent les familles expropriées le long du premier tronçon de l'autoroute actuellement en chantier, selon les 110 organisations de la société civile. Mialisu Rangiamampian, directrice exécutive de Transparency International Madagascar et porte-parole des signataires.
Nous n'avons pas de publication qui soit vraiment transparente sur les tracés officiels de cette autoroute. Donc beaucoup, beaucoup trop de confusion avec des impacts importants sur les communautés. On voit des rizières qui ont été remblayées, donc des familles qui perdent leurs moyens de subsistance. Sans compter aussi qu'on ne connaît pas de système de compensation clair.
Les organisations de la société civile affirment que les personnes expropriées n'ont pas reçu d'indemnisation préalable, contrairement à ce que prévoit la Constitution. Elles demandent une consultation des populations et la publication du tracé de l'autoroute.
On pense que c'est une bonne idée d'avoir une autoroute qui puisse servir à tous, mais pas au détriment des communautés. Il faut que leur consentement soit préalable, libre, éclairé, pour que la chose puisse se faire de façon humaine. C'est plus simple d'informer, de discuter, que de faire un forcing et d'arriver à un point où les gens sont tout simplement fatigués, paniqués, etc. Personne ne mérite ça.
Contacté par RFI, le ministre de l'Environnement, Max Fontaine, répond que toutes les procédures d'indemnisation ont été respectées et promet que le tracé du deuxième tronçon de l'autoroute sera publié avant le lancement des travaux. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également le Cameroun, où les avocats sont en grève depuis hier et jusqu'à demain. Ils dénoncent la passivité des autorités face aux agressions agressions qu'ils subissent, disent-ils, de la part des forces de l'ordre. La Guinée est la promesse du Premier ministre Baouri qui s'engage à des élections pour cette année 2025 et la principale difficulté, reconnaît-il, ce sera la constitution du fichier électoral potentiellement source de déstabilisation, dit le chef du gouvernement guinéen. Et puis le Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois autres pays ouest-africains dirigés en ce moment par des militaires, peuvent-ils faire leur retour au sein de la CDAO, la communauté ouest-africaine, qu'ils ont quitté ensemble? Ce retour, Alassane Ouattara, le président ivoirien, et son homologue ghanéen veulent y croire à Abidjan, Abdoulaziz Diallo.
Côte d'Ivoire et Ghana, deux poids lourds de la CDAO, affichent une position commune. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent revenir au sein de l'organisation régionale. Pour Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, l'unité des 15 États est essentielle face aux défis économiques et sécuritaires croissants. Le président ivoirien en appelle à la médiation de son homologue ghanéen.
Nous vous faisons confiance, monsieur le président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest.
John Dramani Mahama, lui, estime que rien n'est perdu d'avance. Il veut croire à un retour possible des États dissidents.
Il est toujours possible de ramener nos pays frères à la maison. Ce sont les pays qui comptent pour la sous-région. Il vaut mieux être en groupe de 15 plutôt qu'un groupe de 3.
Un message lancé alors que la CDAO accorde un sursis de 6 mois à l'AES pour revenir sur sa décision. Mais du côté de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les autorités militaires campent sur leur position et qualifient leur retrait d'irréversible. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
À Abidjan, où il est maintenant 7h42 et vous êtes avec Andréane Mella.